Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous donner ce message aussi ce matin, aussi bien à vous qui êtes réunis ici qu'aux personnes qui nous regardent depuis chez eux, devant leur écran, bien installés sur leur canapé ou je sais où. J'ai une petite pensée, récemment on a fait un temps de louange, on l'a fait une fois durant le confinement, on était avec Catherine, on a animé le temps de louange, et puis c'était un défi pour moi de dire, mais le temps de louange, on a normalement une interaction avec les gens et tout. Là, on se faisait filmer et puis on devait s'imaginer les gens derrière leur écran. Et puis, j'avais enregistré un message de la semaine d'avant, puis je leur ai dit, mais préparez-vous à louer Dieu à la maison aussi, derrière votre écran. Vous pouvez peut-être faire des choses que vous n'avez jamais osé faire à l'église, hein, ou liberté dans votre sphère privée de louer Dieu, que vous n'avez peut-être pas, à l'église. Donc, alors voilà, j'ai eu pas beaucoup de retours, j'ai juste eu un retour, ouais, c'était un ami de l'église qui a un tout petit enfant et puis il nous a envoyé un message. Il a dit, quand vous avez loué, le petit bébé que je portais ici, il s'est endormi, il était tout paisible. J'ai dit, voilà, j'ai vu un fruit au moins là, par l'écran, quelque chose passe quand même. Et je suis heureux qu'on puisse quand même, que ce culte puisse être transmis aussi online à vous qui n'êtes pas venus ou qui n'avez plus de place pour venir. Hein, ça s'est fait sur inscription, donc peut-être que vous avez voulu venir et puis c'était déjà plein. Quel thème choisir? Alors voilà, je ne vous connais pas ou un tout petit peu les responsables de l'église. Donc j'avais un peu carte blanche. Pour pas trop tomber sur un thème que vous avez traité il y a 2 semaines, j'ai quand même posé la question, est-ce que si je parle de la prière de Jabez, c'est quelque chose que vous n'avez pas traité récemment? Et on m'a dit non, alors que je pourrais volontiers parler de ça. Donc voilà, je vais me baser sur cette prière de Jabez, il y a plusieurs manières de le dire, je dirais Jabez, voilà, c'est aussi écrit différentes manières dans la Bible. Et c'est ça que j'ai pris comme base de ma prédication. Donc c'est une prière que l'on trouve dans la Bible, on verra tout à l'heure, dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Donc en ces temps de restrictions, hein, on peut plus difficilement se déplacer, on a des restrictions au niveau des contacts, de nos projets, les séances s'annulent, etc. Vous demandez peut-être ce que ça veut dire encore prier aujourd'hui. Comment je dois prier? Je peux plus certaines prières communautaires, c'est plus possible. Je dois prier pour moi, je dois prier pour les autres, je dois prier pour les autorités, je dois prier des prières de louange à Dieu. Donc j'ai choisi cette prière qui est une prière plutôt personnelle qui est faite par un homme, Jabez. Qui l'a adressé à Dieu pour lui en premier, mais on le verra aussi plus tard, qui a aussi des portées communautaires. Cette prière, c'était pas une prière simplement égoïste pour moi, mais c'est aussi pour les gens qui l'entourent. Alors, le texte biblique, est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? Ouais. J'ai voulu avancer ici, mais il faut coordonner. Voilà. Est-ce que vous arrivez à le lire ou bien c'est difficile? Est-ce qu'éventuellement quelqu'un serait d'accord de lire, j'ai mis 2 versions différentes, de lire celui du haut, puis une autre personne lire celui du bas. Mais si c'est, alors ouais, volontiers.
Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé.
Merci. Quelqu'un d'autre, là, dans la version second 21? Oui, Liliane, t'arrives à lire?
Il est plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé.
Merci. Quelques mots peut-être du ce que j'appelle le monde derrière le texte. Je trouve toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a derrière le texte. Donc on est ici dans le livre des Chroniques, et puis c'est un livre qui est en 2 parties. Mais il n'a pas toujours été en deux parties, il a d'abord été en une partie. Et puis, c'est à partir de la Bible des 70 qui a été faite, réalisée vers 270 avant Jésus-Christ, qu'il a été divisé en deux parties. Et puis, c'est un livre qu'on a appelé Paraleipomena. Si vous voulez apprendre un nouveau nom, c'est Paraleipomena. Ça fait la première fois que je disais ça, mais ça veut dire les omissions. Voilà. C'est comme si c'est un livre qu'on suppose que l'auteur voulait simplement compléter des livres historiques, ajouter encore un petit peu des choses qu'on avait oubliées dans les livres. Donc voilà, il y a différentes parties dans ce livre. Il y a des parties plus ou moins intéressantes. Dans les chroniques, au début, il y a beaucoup de généalogie. Mais il y a aussi des éléments par rapport à David, à Salomon, au culte. Ce livre, si vous le lisez dans la Bible, il se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, en général, il se trouve entre le livre des Rois, qui est aussi un livre qui a été fait en deux parties, et avant Esdras. Donc voilà, c'est pas forcément un livre qu'on lit beaucoup, en tout cas pas la première partie. Et qui est-ce qui a écrit les chroniques? Alors, l'auteur n'est pas sûr, on n'est pas sûr de... mais la tradition israélite, elle nous dit que c'est attribué à Esdras. Donc, celui qui a aussi écrit le livre d'Esdras. Donc, c'était un judéen qui était sacrificateur ou lévite et qui était contemporain lui-même de la première génération des rapatriés après l'exil en Babylone. Quand, estimé vers 450 avant Jésus-Christ, donc après la première vague de retour de l'exil qui a eu lieu à partir de 540 avant Jésus-Christ. Donc voilà quel est le style de texte. C'est un texte historique, voilà, avec des généalogies, comme je l'ai déjà dit. Et puis, certains, comme par exemple Saint Jérôme, là, il disait que c'était un petit peu une édition miniature de l'Ancien Testament, parce qu'il comporte quand même un peu de tout, de l'histoire, mais pas tout de manière complète. Et il y a des accents qui sont mis sur certains éléments de l'histoire, en particulier sur le temps de David et ensuite de Salomon. Et puis ensuite, la dernière partie, c'est des récits uniquement de Judas, donc après qu'il y a eu le schisme entre Judas sud et puis les tribus du nord. C'est essentiellement concentré sur la tribu de Judas. Voilà, le but de ces chroniques, c'est quoi? C'est un livre d'expérience qui relate le Dieu qui s'est révélé dans l'histoire. Quand on voit des chronologies, c'est toujours aussi pour mettre en évidence qu'il y a une histoire. Il y a eu tous des hommes avant, c'est aussi pour mettre ça en évidence à travers des hommes et qui a agi, qui continue d'agir dans le temps présent et dans l'avenir. Donc pour Israël, c'était un temps quand même assez difficile. Il y a déjà eu une première partie de gens qui sont revenus d'exil. Et puis c'est un livre aussi d'encouragement pour reconstruire la ville qui avait été détruite, reconstruire la ville de Jérusalem, mais aussi construire le temple préparé à David, mais finalement qui a été édifié par Salomon. C'est quelques sources, si jamais vous voulez aller plus en détail, ou si je les ai pris aussi du livre 66 en 1 d'Alfred Kuhn, qui donne une bonne introduction aussi sur les livres. Et je vous encourage aussi, quand vous lisez des fois un texte, d'aller chercher un peu ce qu'il y a derrière. Nous, aujourd'hui, on le lit, 2500 ans après, mais quand ils l'ont écrit, c'était un autre contexte. Et ce verset en particulier, 1 Chronique 4, 9 à 10, c'est assez surprenant comme verset. C'est un peu une parenthèse entre deux listes généalogiques. Il y a une première liste généalogique où on nous parle des autres descendants de David, au début du chapitre 4 de Chronique. Et ensuite, il y a ces deux versets qu'on vient de lire. Et ensuite, les généalogies continuent. C'est un peu comme si, boum, ce verset-là au milieu, on se demande pourquoi on l'a mis là, pourquoi on a interrompu cette généalogie, on ne le sait pas. Mais il est dans la Bible. Et c'est ça ça fait partie du texte inspiré par Dieu qui a été écrit par, on suppose, Esdras. On nous parle d'un Jabetz. Il y a différentes traductions du mot. Alors, on n'en parle comme personne, on n'en parle que ici. Et puis, deux chapitres avant, on parle de Jabetz comme un lieu. Alors, ça arrivait encore aujourd'hui, des fois, est-ce que Jabetz habitait Jabetz? C'était sa ville? On ne le sait pas. Donc, on en parle très, très peu, finalement, de cette personne. On ne peut pas en dire beaucoup de qui est Jabetz. On sait que ça, on en reviendra encore tout à l'heure dans l'interprétation du texte aussi. On sait que sa mère l'a enfanté dans la douleur, d'où la raison de ce nom. Ça, c'est mon dernier texte. Le monde du texte, si on compare un petit peu les deux textes qu'on a ici, il y a d'autres traductions aussi. Je pense que vous avez aussi encore d'autres. Il y a quelques différences, comme il y a souvent des traductions. Et ces différences sont là pour enrichir notre réflexion. Alors ici, il n'y a pas des grandes différences. Vous voyez, il y a Yabetz dans la version Bible du Semeur, Jabetz pour la version Second 21. Ça, c'est considéré, honoré. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. D'un côté, on a considéré qu'il était plus considéré que ses frères. Dans l'autre version, plus honoré que ses frères. Aujourd'hui, on a beaucoup cette culture de l'honneur. C'est peut-être ce qui explique aussi que dans la Second 21, on a pris le mot honoré plutôt. Après, on parle, il a enfanté. J'ai mis les mots un peu en gras où il y a des différences. Sa mère l'a enfanté ou donné naissance. Ça, c'est synonyme. Invoquer Dieu, faire appel à Dieu. Que ta main soit avec moi. Et puis la version Bible du Semeur, située avec moi, simplement. Et le dernier verset, ou l'avant-dernier, là, c'est qu'il y a le plus de différence, je trouve. Si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. Et dans l'autre version, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Il y a aussi encore une dernière différence que je voudrais souligner. Qui a aussi, qui m'a, si tu me bénis réellement, dans le verset 10, dans la verset Bible du Semeur, si tu me bénis, puis il a ajouté réellement. Je trouve intéressant qu'il y ait ce mot, et j'en reviendrai tout à l'heure. Dans l'autre version, c'est simplement si tu me bénis, veuille me bénir. Je ne sais pas si l'un ou l'autre a sa Bible devant soi, ou a vu d'autres différences. Mais voilà, vous avez certainement d'autres versions. Là, c'est Second 21, Bible du Semeur. Dans d'autres versions, il y a peut-être encore des différences aussi. Maintenant, venons-en au monde que j'appelle devant le texte, c'est-à-dire nous qui lisons aujourd'hui, à peu près 2500 ans plus tard, ce verset. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ce texte biblique qui a été écrit par, on ne sait pas, on suppose Esdras, sous l'inspiration de Dieu, et qui a traversé les âges pour nous parler aujourd'hui. Alors, on voit que Jabetz demande quatre choses à Dieu. La première, on peut changer de slide, il dit « bénis-moi ». Deux mots. Bénir, ça veut dire, ça vient de bien, dire du bien d'eux, ou faire du bien. Quand on dit bénir Dieu, on dit du bien de Dieu. Quand on demande à Dieu de nous bénir, on demande qu'il nous fait du bien. Donc ça, on pourrait le traduire « fais-moi du bien » ou « accorde-moi des choses pour mon bien ». Est-ce qu'il a fait cette demande pour lui tout seul? Voilà, « bénis-moi ». Moi, moi et moi. Je dirais oui, je pense qu'il a pensé à lui. Et quand on prie aussi ça à Dieu, on pense à soi, bien sûr, c'est important. Mais pas seulement. Et la bénédiction, elle nous renvoie assez vite au livre de Genèse, que Jabetz connaissait certainement, le livre de la Genèse. La Torah, quand Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Et le mot de bénédiction nous ramène même plus loin dans l'histoire, au récit de la création, dans Genèse 1. Dans ce contexte, la bénédiction signifie donner la vie, apporter la lumière dans les ténèbres, de l'espoir dans le désespoir, de la paix dans le chaos. Et seul Dieu peut apporter cette lumière, peut apporter cette espérance, cette paix, en un mot, peut apporter la vie qui découle de cette bénédiction. Donc, quand Jabetz demande à Dieu de le bénir, il lui demande la vie, mais pas seulement pour lui, mais aussi pour qu'il soit une source de vie et de bénédiction pour ceux qui l'entourent. Sous quelle forme se manifeste la bénédiction? Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, je pense qu'il y a multiples formes que la bénédiction peut se manifester dans notre vie. Parfois, c'est des belles choses, surprenantes, parfois difficilement compréhensibles. Je pense que j'ai pris ça avec ici pour illustrer parfois difficilement compréhensible. Vous voyez ce que c'est? Qui c'est qui peut me dire ce que ça pourrait être, ça?
Je ne suis pas mis trop près.
Un gâteau.
Un bout de gâteau, un cupcake, ouais. Notre fille, elle a un calendrier de l'Avent qui, chaque année, sa marraine, une, un calendrier de l'Avent avec... cadeaux très originaux. Puis l'autre jour, il y avait ça dedans. Alors, non, les jours avant, il y avait du chocolat, il y avait des trucs. Elle voyait tout de suite l'utilité. Là, elle a reçu ça. Puis elle me dit, mais ça sert à quoi? Elle essayait de l'ouvrir, elle me l'a donné. J'ai dit, attends, je vais essayer d'ouvrir. Rien. Après, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé un WhatsApp à sa marraine. Elle dit, mais tu m'as donné ça, c'est quoi, c'est pourquoi, etc. Puis sa marraine lui a dit, ben, c'est juste décoratif. C'est, comment elle lui a dit, pour faire joli dans ta chambre. Alors elle a dit, ah bon? Peut-être un peu déçue, mais là, au moins elle a mieux compris pourquoi elle avait reçu ça. Donc voilà, c'est surprenant. On ne sait des fois pas trop ce que Dieu nous donne non plus sous le moment, mais attends, comment? Elle a eu ce réflexe de demander finalement à l'expéditeur qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Elle lui a dit, ben, c'est juste décoratif. Et peut-être aussi des fois, Dieu nous donne des choses juste pour être là, sans forcément qu'il y ait une utilité, sans forcément qu'il y ait... On va trop se prendre la tête. Et puis, je me suis même imaginé qu'on pourrait une fois... Voilà, le décor dans sa chambre ou chez nous, elle le pose là. Hein, puis que quelqu'un vienne une fois et puis dise, ah, c'est super, j'ai une collection, est-ce que tu me donnerais, etc. Puis comme elle n'a pas l'air trop enchantée du truc, elle va peut-être dire, oh, mais je te donne, ouais, volontiers. Ce serait une bénédiction qui va passer plus loin, qui va bénir quelqu'un d'autre, qui va peut-être encore mieux voir le sens de la décoration d'un petit cupcake comme ça. Voilà, donc la multifacette, la précision qu'on lit dans la version Bible du Semeur, que les bénédictions de Dieu sont réelles, ou bien si tu me bénis réellement, ça montre une profondeur de la demande. Jabez ne voulait pas juste bénis-moi un peu, mais bénis-moi réellement, je veux que ce soit une bénédiction qui vienne de toi, quelque chose de sérieux, de bon, qui me fait du bien, qui m'apporte la vie. Donc voilà la première demande que Jabez y fait, bénis-moi, j'ai envie de dire comme tu veux, mais je veux que ce soit une réelle bénédiction de toi pour moi et celui des autres. La deuxième demande, on peut passer à la slide suivante, étend mes limites. On parle aussi d'agrandir mon territoire, ça dépend des versions aussi. Donc au temps de Jabez, je peux imaginer peut-être que lui avait un territoire, avait une ville, et puis voulait réellement qu'elle s'agrandisse, physiquement, territorialement. Je pense qu'on n'est plus à cette époque-là, je ne sais pas si ici... Il y avait un temps des idées de fusionner les cantons, d'élargir Genève ou que les Vaudois viennent plus en avant, je ne sais pas, d'élargir le territoire politique. Je pense qu'on n'est plus, on n'est plus là, mais pour Jabez, ça pouvait signifier ça. Je peux m'imaginer à l'époque, chacun avait son territoire. Peut-être que lui-même était chef, était responsable politique de son époque et souhaitait être plus influent, avoir plus grand territoire. En même temps, quand il demande cela à Dieu, il reconnaît qu'il est limité pour diverses raisons. Ça peut être il est limité peut-être lui dans son territoire pour influencer les autres, mais ça peut être pour nous, on est limité physiquement, on peut être limité moralement, on a un cœur souffrant, on a des limites, on se sent enfermé, et qu'il a besoin d'une intervention de Dieu pour qu'il puisse aller plus loin, élargir son action, son influence, peut-être même prendre son envol, comme l'image de l'aigle qu'on trouve dans la Bible. Il se sentait peut-être un peu posé, il avait besoin de prendre son envol et que Dieu lui aide à s'envoler, à prendre de la hauteur. Et pour nous, nous sentons-nous parfois à l'étroit? Est-ce que notre potentiel que Dieu nous a donné en nous créant peut être pleinement valorisé? En pensant à ce terme « élargir le royaume », je pense au royaume de Dieu qui a été inauguré par Jésus, comme on l'a chanté aussi, et qui avance, ce royaume qui avance sur terre. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ma vie contribue à faire avancer ce royaume de Dieu en étant une bénédiction, en prenant parfois aussi des risques, mais en sachant que le royaume de Dieu appartient à Dieu en premier et que c'est lui qui a la toute puissance de le faire grandir. On a voulu empêcher Jésus de poursuivre son action de salut, on l'a cloué sur une croix, j'ai l'impression là, on a voulu couper toute sa liberté. On l'a même mis dans le tombeau, là il avait plus de limites, il était coincé dans ce tombeau, il était mort, enfermé dans une tombe, bien gardé par des soldats. Et c'est là que la puissance de Dieu l'a alors ressuscité, les verrous de la mort ont sauté et cette victoire elle est aussi pour nous aujourd'hui. Dans nos combats quotidiens, dans nos limites qui nous semblent parfois paralysantes. Donc voilà cette deuxième demande de Jabez, que Dieu étende ses limites et que nous pouvons aussi nous faire cette demande. Pour nous, je reviendrai encore tout à l'heure sur ce point-là dans les questions à la fin du message. Troisième demande, sois avec moi. Donc Jabez est pleinement conscient que c'est uniquement la présence de Dieu à ses côtés qui va faire la différence. La présence de Dieu est un merveilleux antidote lorsqu'on souffre de solitude. Et je crois que durant ce temps de pandémie, la solitude est un mal qui est là et qui est encore plus fort, en particulier pour les personnes qui vivent seules ou qui vivaient seules avant la pandémie. Là, ils se sentent encore peut-être plus seuls qu'avant. Donc, soyez encouragés, peut-être vous qui êtes ici, qui vous sentez encore plus seul aujourd'hui, ou vous qui nous écoutez, la présence de Dieu, demandez ça à Dieu, et il l'est, c'est une promesse qu'il est avec vous, qu'il demeure avec vous. Il l'a promis. On est bientôt à Noël, à quelques jours de Noël, et on a cette promesse, ça nous est rappelé aussi lorsque l'ange s'est adressé à Joseph en parlant de Jésus, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, en référence aussi à la prophétie qui avait été donnée à Ésaïe. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament, hein, je rappelle, on est à moins 450, donc c'est-à-dire bien avant la venue de Jésus et aussi de l'effusion de son esprit à la Pentecôte. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette grâce d'être avec nous, mais d'être en permanence, il est même en nous par son esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que j'ai tendance à parfois l'oublier un peu trop vite. On n'est pas seul, Jésus est avec nous, il a fait sa demeure en nous, il est parmi nous par son esprit. Voilà cette troisième demande que Jabez a fait, simplement demander à Dieu d'être avec lui. Demandons-nous aussi cette même chose à Dieu, et il nous a fait la promesse qu'il est toujours avec nous. C'est une autre promesse dans Matthieu 28, 20, quand il a donné son dernier commandement aux disciples d'aller faire des disciples. On a parlé d'être et de faire des disciples. Il a dit à la fin, mais sachez, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vais partir, mais je serai avec vous par l'Esprit. Et enfin, la dernière demande, cette dernière demande que Jabez adresse, garde-moi du mal, ou éloigne de moi le mal, ou préserve-moi du mal. Avec cette demande, elle est accompagnée d'une forme de conséquence pour lui qui s'imagine pour m'épargner la souffrance, ou pour que je ne vive pas dans la douleur. Donc on voit ici ce lien clair entre le mal, le malheur, la souffrance et la douleur. Et ce mal, ce malheur, les maladies qui ont la même racine, mal, maladie, engendrent de la souffrance et des douleurs. Et ça fait partie de notre humanité déchue. En faisant cette demande, Jabez est conscient du mal qui l'environne et des pièges qui lui sont tendus, hein, soit pour lui faire du mal à lui et le faire souffrir, soit aussi pour que lui puisse éventuellement être une source de mal pour les autres et pour les faire souffrir. Je crois que dans les deux sens, on peut être des fois faire du mal ou être touché par le mal. Et face au mal, Dieu a fait sa part en Jésus, soit une victoire réelle et complète sur Satan et toutes les formes de mal existants. Vous avez la croix ici qui le rappelle. En faisant cette prière aujourd'hui, on demande que cette victoire s'incarne dans notre vie, dans notre quotidien. Notre part face au mal, c'est aussi de veiller. Il est dit « car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». Donc ce mal nous environne, il est là, c'est l'adversaire, le diable, qui est la personnification du mal. On doit veiller pour ne pas se laisser piéger par ça aussi. Donc voilà, comme Jabez dans sa quatrième demande, soyons conscients que le mal nous entoure et nous affecte, mais demandons à Dieu de nous garder du mal en proclamant la victoire de Jésus sur la croix et en étant vigilants face aux pièges que Satan veut nous tendre. Sur terre, nous sommes toujours touchés par le mal. On a la pandémie aujourd'hui qui nous touche. Vous avez peut-être des gens qui sont décédés, des gens qui souffrent du Covid actuellement ou d'autres maladies. Il y a des souffrances qui sont là, il y a des accidents, donc le mal est présent. Et nous attendons le retour glorieux de Jésus pour l'accomplissement complet du royaume. Ce royaume qui vient un peu comme, on le voit déjà un petit peu sur terre, mais là il va venir avec toute sa grandeur et le mal n'existera plus dans le royaume de Dieu à venir. Mais dans cette attente, prions pour être protégés du mal et pour aussi pas faire du mal aux autres. Voilà, en conclusion, alors, quelle est la réponse que Dieu donne à cette prière? Il nous dit simplement et clairement, que Dieu a exaucé sa prière. J'ai mis dans mes notes « no comment ». Je ne sais pas s'il y a toujours sur Euronews, un temps il y avait, je regarde plus tellement la télé ces dernières années, mais il y avait des images qui passaient, il y a juste écrit « no comment » dessous. Donc il n'y a pas un grand, c'était des images, hein, il n'y a pas un grand commentaire. « No comment ». Et j'aimerais juste revenir, bref instant, sur ce verset 9 qui nous a parlé quelque chose de que Jabez avait quelque chose de spécial. On dit qu'il était plus honoré que ses frères et qu'il a fait souffrir sa mère à la naissance. D'ailleurs, en hébreu, donc Jabez fait référence à ces termes de rendu par douleur, souffrance. Donc chacun de nous a une place unique dans le cœur de Dieu. Et en même temps, Jabez avait certainement compris quelque chose de Dieu qui lui permettait d'adresser une telle prière et que sa prière fût exaucée. Il n'avait pas de privilège, je pense, chez Dieu. Dieu exauce les prières. Mais il avait peut-être compris quelques clés, comment s'adresser à Dieu, avec une prière, somme toute, assez simple, assez claire, et Dieu l'écoutait et l'exauçait. Voilà, comme conclusion, prions pour nous laisser inspirer par cette prière, en demandant des choses à Dieu qu'il veut nous donner. Question que je me suis posée, que vous posez aussi parfois, pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos prières? C'était enfin, une grande question. Hein. Pourquoi? Là, on dit que ça paraît limpide. Hein. Il prie, pauvre réponse. Donc, nous, des fois, on prie, rien, plus tard, ou après coup. Ah oui, il a répondu là. Hein. Je rappelle ça, des fois, c'est pas si clair. Là. Ce qu'on reçoit de Dieu, ou bien sur le moment, voire même on s'en offusque. Pourquoi je vis ça? Il y a peut-être aussi une bénédiction dans des choses qui nous paraissent à première vue, pas toujours des bénédictions. Et je pense qu'une des raisons, je ne vais pas m'élargir là-dessus, mais une des raisons, c'est que nous faisons parfois des demandes qui ne s'accordent pas toujours avec la volonté de Dieu pour nous. On parlait une fois, je me souviens, avec Noah de ça, et puis j'ai dit, mais Dieu ne répond des fois pas. Ben, il me disait, mais on demande à Dieu, hein, il répond comme il veut. C'est comme si on demandait à notre Père, on lui demande, il répond comme il veut finalement. On exprime la demande, alors il avait raison. Ça me dit, bon, on demande, ça ne veut pas dire qu'on doit l'obliger à répondre comme on lui a demandé, et c'est ça qu'il voulait un peu me dire. Et je pense que prier dans ce cadre-là, ça signifie aussi être à l'écoute de l'écoute de Dieu, l'écoute de lui et de prier des choses qu'il nous met à cœur. Et ça, je vous invite aussi, quand vous priez, pour temps de prière, pas tout de suite, tac, on commence et on fait une liste de prières, mais passez du temps dans le silence. Dis-moi des choses, mets-moi des choses à cœur. Et parfois durant la journée aussi, si on a cette liberté de penser, des fois nos pensées sont bien encombrées, mais qu'on ait un peu de place dans nos pensées aussi pour entendre Dieu, des fois il nous met des personnes à cœur, tout à coup on pense à quelqu'un, ben, priez pour lui, que nos prières soient inspirées de Dieu. Et ça, je pense que c'est des prières comme ça qui peuvent aussi être plus efficaces ou plus pertinentes parfois dans notre vie de prière. Alors je me suis aussi donc demandé pourquoi Dieu a répondu favorablement à la prière de Jabez. Alors voilà ma réflexion que je vous donne un peu sous forme de demande et de réponse que je m'imagine de Dieu par rapport à ces. Alors il demande « Bénis-moi ». Oui, je veux te donner la vie en abondance pour toi, pour que tu sois une bénédiction. Étends mes limites et mon influence. Oui, je le veux, afin que mon royaume vienne sur terre comme au ciel. Sois avec moi, oui, je suis toujours avec toi, tu n'es jamais seul. Préserve-moi du mal qui fait souffrir. Oui, je n'aime et ne veux pas le mal qui fait souffrir mes enfants. Je lutte avec toi contre le mal, et s'il t'atteint, je suis toujours là pour y faire face et pour que cela produise des fruits à ma gloire. La croix est toujours au centre de cette prière pour nous aujourd'hui. C'est pour ça aussi, si on peut mettre la dernière slide. Et au centre de cette prière, donc notre prière est exaucée, entendue, exaucée grâce à l'action de Dieu à la croix, où Jésus a dit tout est accompli. Et tout est accompli, je vois, égale, je me suis dit, pour moi, je te bénis, oui, je veux te bénir. Tu peux étendre ton action et ton influence, car je t'ouvre la voie. Je suis Emmanuel, Dieu avec toi, et la victoire du mal est réelle et complète. Donc la croix est au centre de cette prière pour nous aujourd'hui. Au temps de Jabez, il n'y avait pas encore la croix, c'était pas cette époque-là, aujourd'hui à la croix, qui amène à une dimension encore supplémentaire dans notre vie de foi avec Dieu. Pour aller plus loin dans cette méditation, je vous invite, vous connaissez peut-être ce petit livre. Quelqu'un le connaît, La prière de Jabez? Voilà, super. Alors, ce serait... vous pouvez continuer aussi vos réflexions, il va entrer un peu plus en détail sur différentes choses, sur cette prière de Jabez. Voilà, j'aimerais encore, pour cette partie-là, terminer par la prière. Seigneur Dieu, merci parce que cette prière que tu nous as laissée dans la Bible, dans cette prière de Jabez, nous voulons la prendre comme une prière qui inspire nos prières quotidiennes, Seigneur. Et je te demande que nos vies de prière individuelles, mais aussi quand nous partageons des temps de prière, nous puissions, nous osons te demander simplement, comme Jabez t'a demandé, de nous bénir, d'étendre nos limites, d'être avec nous et de nous protéger du mal. C'est à toi que nous adressons cette prière et nous te demandons avec foi que tu exauces nos prières, Seigneur, et que nous soyons ouverts à recevoir et à voir ou à comprendre ta réponse. Et même si nous ne la voyons pas, même si elle ne correspond pas à ce que nous demandions, nous puissions accepter aussi ta réponse, Seigneur. Tu es le Dieu souverain et tu veux le meilleur pour nous. Amen. Et voilà, le dernier slide encore. J'ai aussi préparé, on fait maintenant directement les questions pour les petits groupes. Ça joue? Donc, on m'a dit que vous travaillez en groupe et que vous repreniez des sujets, que vous continuez de méditer, de partager. Alors, voilà les deux questions que je vous propose pour... c'est pour cette semaine ou bien ça se passe comment? Ouais. Les temps qui viennent, quoi, cette semaine. Oui. C'est, lire en lien à cette prière. La première, comment puis-je valoriser et mettre en pratique la prière de Jabez dans mon quotidien? Question générale qui laquelle vous pouvez, personnel, mais aussi dans les petits groupes, toujours dans cette pensée d'être disciple et faire des disciples. Et puis la deuxième question, dans quel domaine, un ou plusieurs de ma vie, ai-je besoin d'étendre mes limites ou d'élargir mon territoire? Voilà. Amen.